Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Mesdames et messieurs, j'ai annoncé la fois dernière mon intention de traiter cette année du personnel politique et militaire ottoman en centrant sur ce phénomène qui frappa si fortement les observateurs européens contemporains, l'utilisation par le souverain d'esclaves pour occuper une partie au moins des rangs de son armée, de même que certaines hautes fonctions gouvernementales. J'ai indiqué d'emblée que ce personnel participait bel et bien du statut servile tel que le définit le droit islamique et dont j'ai rappelé les principales caractéristiques. Mais ces esclaves du sultan étaient en même temps des esclaves différents des autres par certaines particularités de leur statut par rapport au statut servile général et par leurs conditions économiques et sociales sans commune mesure avec celles des esclaves ordinaires. Ce sont, j'ai cité déjà cette expression, les capoculare, les esclaves de la porte. Comment sont-ils recrutés? Comment sont-ils formés? Quelle est leur part véritable dans l'armée et l'administration de l'État ottoman par rapport à d'autres éléments de conditions libres cette fois qui y jouent également un rôle? En un mot, pourquoi ce recours au moins partiel à des esclaves dans des fonctions que la tradition occidentale, au contraire, confie à des hommes libres? J'ai commencé à donner une première réponse à cette question. Les Ottomans ne font que suivre un usage séculaire des États islamiques qui les ont précédés dans l'histoire. L'esclavage militaire, le fait d'utiliser des esclaves comme soldats, n'est assurément pas propre à l'islam, mais comme l'avait souligné l'un de ceux qui l'ont le plus étudié, David Ayalon, que j'ai déjà cité, il revêt dans l'islam une importance exceptionnelle. En outre, ce qui, dans cet esclavage militaire, est bien le propre de la tradition historique islamique, c'est ce que plusieurs historiens ont appelé en anglais « the Mamluk military slave institution » ou, plus brièvement, le paradigme mamelouk. J'ai commencé à en lire plusieurs définitions sous la plume de David Ayalon et sous celle d'une historienne qui a également publié un ouvrage marquant sur la question. Madame Patricia Kuhn. J'en viens à présent à la plus conceptualisée, la plus théorique de ces définitions, la plus controversée aussi par rapport à la connaissance empirique de l'histoire, des réalités historiques, celle d'un historien américain cette fois, du nom de Daniel Pipes. Voici comment il définit dans son ouvrage « The Genesis of a Military System » qui était paru en 1981, comment il définit le système mamelouk, et je vais le traduire pour vous éviter une trop longue citation en anglais ou dans mon anglais. J'ai défini l'esclave militaire comme une personne esclave d'origine qui a été acquise d'une manière systématique, qui a été entraînée pour le service militaire et qui passera la plus grande partie de sa vie comme un soldat professionnel. Et il poursuit, tandis que des mercenaires ou des troupes alliées arrivaient, c'est-à-dire arrivaient pour rejoindre l'armée d'un sultan donné, dans leur pleine maturité et résistaient dans leur personnalité et leur loyauté, on n'en faisait pas ce qu'on voulait, en d'autres termes, les esclaves militaires, au contraire, arrivaient dans leur enfance non formés et susceptibles d'être réorientés. Des années d'une éducation soigneuse les imprégnaient d'un attachement qui durerait toute leur vie à la religion musulmane, à leur maître, à la dynastie de ce dernier et à leurs camarades compagnons d'armes. Le cursus d'entraînement était la marque de fabrique de toute l'institution de l'esclavage militaire. Il formait le caractère de l'esclave en lui inculquant les compétences militaires, la discipline et l'intelligence des structures de commandement. Les années d'entraînement caractérisaient l'esclave militaire et déterminaient sa carrière future. Il commençait l'entraînement comme un jeune garçon, isolé, et il en ressortait comme un soldat hautement compétent, discipliné et enserré dans un réseau de relations. On n'est pas plus clair. Il y a chez Patricia Crohn et plus encore chez Daniel Pipes, que je viens de citer, toute une interprétation du phénomène que ces deux auteurs lient à la nature même de l'islam et qui aboutit chez eux à une mise en accusation quelque peu idéologique de l'islam. Le recours des souverains à des armées d'esclaves aurait été, selon eux, rendu nécessaire par la désaffection des Arabes, puis des Persans islamisés à l'égard du métier militaire, ce que David Ayalon avait déjà dit avant eux, mais par ailleurs, l'islam, en dessinant le tableau idéal de ce que devait être la vie publique, mettait la barre si haut, imposait des objectifs si inaccessibles que très tôt, il aurait, selon ses auteurs, découragé et même dissuadé le citoyen ordinaire non seulement de faire la guerre, mais de prendre part aux affaires publiques en général. C'est ainsi que, pour suivre leur raisonnement, la place serait restée libre pour l'utilisation par le souverain d'esclaves d'origine étrangère et non musulmane. Je n'entrerai pas dans la discussion de cette interprétation de nature, encore une fois, très idéologique, ou du moins, je ne le ferai pas tout de suite, dès maintenant. Je me contenterai, pour le moment, d'observer, et j'y reviendrai par la suite, que dans beaucoup de ces régimes musulmans, y compris chez ceux qui sont connus pour avoir donné une grande importance aux effectifs serviles, comme les Samanides d'Iran oriental et de Transoxiane au IXe, Xe siècle, on a connaissance d'effectifs musulmans libres, substantiels, coexistant par conséquent avec les armées d'esclaves. Et dans le régime mamelouk lui-même, celui qu'on désigne plus spécialement par ce terme de mamelouk, le régime qui va dominer l'Égypte et la Syrie du milieu du XIIIe au début du XVIe siècle et qui non seulement prend son nom de ce paradigme mamelouk, mais qu'il porte à son paroxysme, puisque dans ce régime, le sultan lui-même est un mamelouk, est un esclave d'origine en tous les cas, eh bien, même dans ce régime, il subsiste une armée d'hommes libres, ce qu'on a appelé la Halka, héritée du régime précédent des Ayyoubides. Il est vrai que cette armée d'hommes libres, cette Halka, perd de son importance à partir de la fin du XIIIe, qu'on lui consacre une part de moins en moins grande des revenus de l'impôt et qu'ainsi elle tend à devenir une simple troupe de réserve par opposition à l'armée des Mamelouks. Toutefois, cette évolution négative vaut pour l'Égypte, mais n'est pas constatée de la même façon en Syrie. Et puis, dans le cas ottoman, sur lequel j'insisterai beaucoup plus, la coexistence de troupes serviles et d'armées d'hommes libres est une évidence qu'on peut même approcher, comme nous le verrons, de façon particulièrement précise. À lui seul, le fait que cette mixité des sources de recrutement a pu exister dans de nombreux régimes musulmans me semble montrer que ce n'est pas la nature même de l'islam qui est en cause dans le recours aux esclaves étatiques et que la volonté du souverain musulman de recourir au moins pour une part à ce type de troupes répond à d'autres motifs. Mais revenons aux faits, à ce qu'on peut savoir des origines du paradigme mamelouk. Quand et où cette invention, qu'on peut qualifier à la fois de géniale et de diabolique, vit-elle le jour et qui donc en est l'auteur? Pour les trois historiens que j'ai cités jusqu'à présent, mais ce serait également vrai de tous les grands maîtres de l'histoire musulmane médiévale, aussi bien de Claude Cahen que de Dominique Sourdel ou de Bosworth, il ne fait pas de doute que le système serait né en Irak sous le règne du calife abbasside Al-Mutasim, qui règne de 833 à 842, soit de 218 à 227 de l'Égir, ou bien sous celui de son prédécesseur immédiat, Al-Mamoun, qui règne de 813 à 833. Donc, en tout état de cause, selon ce qui est une opinion très répandue chez la plupart des historiens, ce serait dans la première moitié du IXe siècle de l'ère commune que le système serait apparu. Il aurait été alimenté par des esclaves turcs, adolescents, ces Turcs étant encore païens et donc pouvant être réduits en esclavage, et d'autre part renommés, je vais y revenir, pour leur qualité militaire prétendument innée. Et ils avaient été achetés sur les marchés d'Asie centrale, puis transférés en Irak à Samara, la nouvelle capitale des califes abbassides. Voilà l'opinion la plus répandue sur l'origine du système mamelouk. Toutefois, à cette opinion s'oppose radicalement toute une série d'autres auteurs faisant valoir de diverses manières que les troupes importées d'Asie centrale par ces deux califes que je viens de citer, Al-Mutasim et Al-Mamoun, n'étaient nullement composées d'esclaves adolescents turcs et isolés, mais au contraire de soldats déjà aguerris, qui pouvaient être des Turcs ou bien des Sogdiens, donc des Indo-Européens, volontaires ou contraints, arrivant individuellement ou par troupes entières et importants, en somme, au cœur de l'appareil d'État abbasside, du divan abbasside, des modes d'organisation militaire et des hiérarchies sociales qui avaient préexisté dans l'Asie centrale pré-islamique. Et donc, ce problème pose la question des éventuelles influences centra-asiatiques pré-islamiques dans les institutions du califat abbasside de cette époque. En dernier lieu, ces vues ont été développées, brillamment développées et étayées par un jeune collègue de l'École pratique des hautes études, M. Étienne de Lavessière, qui a publié en 2007, donc vous voyez c'est récent, un ouvrage intitulé « Samarcande et Samara, élite d'Asie centrale dans l'Empire abbasside ». Ce dernier auteur ne conteste nullement l'apparition du système mamelouk tel que nous l'avons défini et qui, de fait, est précisément décrit par nombre de sources arabes. Mais il en recule la date de création de quelques décennies pour la situer, au terme d'une démonstration très savante et minutieuse, non plus dans la première moitié du IXe siècle, comme on le faisait communément, mais à la fin de ce même siècle, à la fin du IXe siècle. Ce seraient les déboires rencontrés avec la garde turque de Samara, une garde turque donc non mamelouque stricto sensu, coupable d'avoir assassiné plusieurs califes successifs, qui aurait amené le calife Moutamide, ou plus vraisemblablement son frère Mouafak, qui était le chef de l'armée, qui était l'homme fort du régime, et dont d'ailleurs le fils succédera à Moutamide comme calife. Eh bien, c'est lui qui aurait imaginé ce nouveau système propre à façonner une armée moins dangereuse pour les souverains en place que ce qu'avaient été jusque-là les premières garnisons de Samara. Au fil du temps, cet esclavage militaire islamique qui serait né dans ces conditions sera alimenté par des esclaves d'origine ethnique très diverse, des noirs comme des blancs. Les régions situées au nord-est du monde musulman restant toutefois une des principales sources d'approvisionnement. Mais dans la phase initiale du système, dans l'Irak abbasside que j'évoquais, et dans plusieurs des États successeurs de l'Empire abbasside dans les siècles suivants, ce seront principalement des esclaves turcs, issus des différents peuples turcs, encore païens, des steppes centre-asiatiques et nord-pontiques, c'est-à-dire des steppes du nord de la mer Noire, qui seront utilisés comme mamelouks. Grâce à la conquête de la Transoxiane, de ce que les Arabes appellent Mawara al-Nahr, c'est-à-dire la région située entre les deux fleuves que sont l'Amoudaria, l'Oxus des Anciens, et le Sirdaria, le Yaxart ou Yaxartès en grec des Anciens, avec les villes de Boukhara et de Samarcande. Cette conquête accomplie par les musulmans entre 705 et 715 permet aux autorités musulmanes de parvenir au contact de ces populations encore païennes de la steppe. Ils appartiennent, je vous disais, à plusieurs peuples turcs. Ce sont les Oghuzes, entre le Sirdaria et la Vodga, ou bien les Kupchaks ou Koumans, plus au nord et au nord-ouest, les Karlouks, autres peuples turcs, du côté du lac Balkash, etc. je ne vais pas tous vous les citer. Par différents moyens, les musulmans tiraient de ces populations des esclaves qui seraient finalement transférés vers Bagdad et les autres grandes villes du califat. Ces esclaves pouvaient avoir été acquis sur les marchés aux esclaves qui fleurissaient juste à l'arrière de la frontière avec la steppe païenne dans plusieurs villes de Transoxiane, dont Boukhara et Samarcande, que j'ai déjà citées. Mais ce n'était pas le seul mode d'approvisionnement. Le tribut et les cadeaux que les gouverneurs de plusieurs provinces frontalières de l'Est devaient présenter régulièrement au calife comprenaient généralement des contingents de ces esclaves turcs. À côté des achats accomplis sur les marchés et de ces contingents entrant dans les différents tribus, les esclaves avaient pu également être capturés lors de grands raids menés par des généraux musulmans de la frontière en territoire turc. Ce fut le cas, par exemple, du raid lancé en 893 par l'émir Samanide. J'ai déjà eu l'occasion de citer cette dynastie dont il sera question à plusieurs reprises. Eh bien, cet émir Samanide, qui est déjà autonome à cette époque, Ismail bin Ahmad, lance un grand raid contre le camp du Khan. Je prononce Khan pour ne pas dire le camp du camp, n'est-ce pas ? Le camp du Khan Karluk, un autre peuple turc, à Talas, la ville de Talas, qui correspond au Zamboul d'aujourd'hui. Eh bien, ce raid rapporte un énorme butin d'esclaves et d'animaux. Mais il est clair par ailleurs que des esclaves turcs étaient également vendus aux musulmans par leurs propres congénères, soit à la suite de conflits tribaux, soit pour des raisons purement économiques, la misère conduisant à vendre les siens, ce qu'on reverra en d'autres lieux et en d'autres temps. Nous avons un exemple fameux, mais qui n'est certainement pas unique, de ces ventes consécutives à des luttes tribales, avec le cas de l'esclave turc Sebük Tegin, qui n'est pas n'importe qui, n'importe quel esclave turc, puisqu'il n'est autre que le père de Mahmoud de Ghazna, le fameux conquérant de l'Inde du Nord, et le fondateur d'une importante dynastie de souverains musulmans, les Ghaznévides. Eh bien, ce personnage, Sebük Tegin, raconte, dans un ouvrage rédigé en persan et qui porte le titre de Pandnama, c'est-à-dire de livre des conseils. Il s'agit de conseils que Sebük Tegin donne à son fils, Mahmoud, le futur Mahmoud de Ghazna, et qui est une sorte d'autobiographie. C'est un cas remarquable, singulier, puisque, comme vous le savez, la littérature musulmane en général comprend peu de biographies, d'autobiographies plus exactement, et encore moins d'autobiographies de souverains. Une exception illustre étant le Baburnama, les mémoires de Babur, le fondateur de la dynastie des grands moghols et un autre conquérant de l'Inde. Eh bien, Sebük Tegin a rédigé, semble-t-il, ou c'est du moins comme ça que le texte présente les choses, une brève autobiographie, beaucoup plus brève que celle de Babur, et où il raconte comment, dans sa jeunesse, il était devenu esclave. Il s'adresse à son fils, à Mahmoud, en ces termes. « Ô mon fils, sache que je vais te raconter l'histoire de ma vie. Sache que mon origine est au Turkistan, d'un clan nommé Barskan. Et ce clan est établi aux abords du lac Issyk-Kul. Une tribu turque, poursuit-il, nommée Barktiyan, fit un raid contre notre clan pendant que mon père était à la chasse. Ils pillèrent notre demeure et m'emmenèrent comme esclave. J'avais 12 ans alors. Le pays des Barktiyan était loin de chez nous et il ne fut pas possible à mon père de venir me rechercher. Je fus emmené dans la tribu des Barktiyan. Ils étaient idolâtres et, dans la steppe, ils avaient sculpté une pierre en lui donnant une forme humaine. Ils disaient qu'elle s'était érigée d'elle-même sur les lieux. Ils avaient l'habitude de se prosterner devant cette pierre à tout moment et c'était un lieu de pèlerinage pour eux. Ils m'avaient chargé de surveiller leurs moutons et je restais habituellement dans la steppe où je passais chaque jour devant cette idole. Et il raconte ensuite, mais je vous épargne ce passage, comment il se comporte vis-à-vis de cette idole. J'ai vécu 4 ans dans cette tribu. Puis ils m'emmenèrent avec d'autres esclaves jusqu'aux villes de Transoxiane, du Mawara Annar, où ils nous vendirent. Je fus acheté par un marchand de Chash, dit-il, ville qui correspond à l'actuelle Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan. Un marchand de Chash nommé Haji Nasr, qui m'amena avec d'autres esclaves à Nakshab, une autre ville de Transoxiane, où je tombai malade. Il me confia aux soins d'une vieille femme et lui donna une somme d'argent pour s'occuper de moi jusqu'à ce que je guérisse. Je fus malade pendant 3 ans. Nasr avait l'habitude de passer tous les ans pour acheter des esclaves, mais comme j'étais malade, il me laissait sur place. Cette femme ne me donnait rien d'autre que les drogues prescrites par le médecin et je devenais très faible. Cependant, j'avais beau demander du pain et de la viande, elle ne consentait pas à m'en donner. Un jour, alors que j'étais étendu sur mon lit, je vis à proximité un morceau de papier froissé. Je le ramassai et, en le dépliant, je découvris qu'il était rempli de pièces d'argent. Ça ressemble un peu à un conte des mille et une nuits, n'est-ce pas ? J'attendis jusqu'à ce que la vieille femme sortît. Elle avait un fils qui était un jeune homme d'un bon naturel et se montrait amical envers moi. Je lui donnai l'argent et lui demandai de me rapporter de la viande et du lait caillé, tout ce qu'on peut rêver de manger. Il sortit, fit ses emplettes, mit le pot au-dessus du feu et fit cuire tout cela pour moi. Je l'ai mangé et la nuit qui suivit, je dormis profondément. Durant 3 jours, ce jeune homme, à l'insu de sa mère, m'apporta de la viande et du lait caillé, et j'allais bien. Alors je parlai à la femme, et elle me donna, elle aussi, la même nourriture, jusqu'à ce que, en l'espace d'un mois, je devins si bien que je recouvrai mon ancienne santé. Sebüktegin poursuit son récit autobiographique en racontant comment ce même bon jeune homme l'initie, lui et d'autres jeunes garçons, au maniement des armes et aux règles de la cavalerie dans lesquelles lui-même, le jeune homme, excellait. Je reviendrai sur les informations éclairantes que ce texte donne à ce sujet. Mais reprenons le récit du parcours du jeune esclave. Il a donc recouvré la santé et bénéficié d'un début de formation militaire quand son propriétaire, le marchand d'esclaves Hadji Nasr, refait son passage annuel à Nakhchab. Cette année, poursuit Sebük Teguin, Nasr revint et m'amena à Boukhara, où il me mit à la tête de ses propres esclaves ayant confiance en moi. On raconta mon histoire à l'émir Alp Tigin, qui était un favori des Samanides. Cet Alp Tigin est un illustre gouverneur du Khorasan, de l'Iran oriental pour le compte des Samanides. Et il me demanda à Nasr, poursuit le narrateur. Et comme Nasr ne pouvait dire non, il me vendit avec 10 autres esclaves à Alp Tigin, qui me mit à leur tête jusqu'à ce que j'atteigne la position dans laquelle, dit-il à son fils, tu me vois, c'est-à-dire celle d'un gouverneur, d'un émir autonome sur le point de fonder une nouvelle dynastie. Eh bien, il y a, vous l'aurez remarqué, un sous-entendu dans ce précieux et rare témoignage sans ce sous-entendu, il serait difficile à comprendre. Après avoir eu toutes les raisons de penser qu'il avait fait une mauvaise affaire à Ginasre, n'est-ce pas, puisque son acquisition, ce jeune esclave, est malade pendant 3 ans et qu'il a pu croire qu'il le perdrait, eh bien, finalement, il réalise, il comprend manifestement qu'il a, au contraire, fait finalement une excellente acquisition avec Sebük Teguin. Il s'en est imprudemment vanté auprès du gouverneur Alp Tigin, qui comprend lui aussi à cette évocation que le jeune esclave est un cas, est exceptionnel et qu'il le lui faut à tout prix. Nous touchons là, me semble-t-il, à une caractéristique de cet esclavage militaire qu'on retrouvera à toutes les époques. Il prend pour seul critère la valeur intrinsèque des individus, sans que le jugement soit influencé, orienté, atténué par d'autres considérations, des considérations de naissance, des considérations d'appartenance à des réseaux ou à des clans, sans considération de piston, tout simplement. Au contraire, il implique une espèce de darwinisme social, a-t-on envie de dire, qui favorise les fortes personnalités, leur permet de s'élever sans limite et laisse, au contraire, les personnalités plus ordinaires dans le rang. C'est précisément dans la mesure où tous ces jeunes esclaves sont, par la force des choses, égaux au départ, que les inégalités naturelles vont jouer à plein dans ce milieu. Alp Tigin est compris rapidement au propos du marchand d'esclaves Hadji Nasr, puis rapidement à l'usage, que Sebük Teguin était promis à un brillant avenir, un autre auteur, Nizam al-Mulk, l'illustre vizir d'origine persane des grands Seldjoukides le rapportera dans un passage de son célèbre ouvrage, le Siyasatnama, le livre de la politique, bien plus explicite sur ce point que le récit de l'intéressé lui-même. Même si ce passage, vous pourrez le constater, fait aussi état d'interprétations, de certains au moins, selon lesquelles une supériorité naturelle aussi évidente ne pouvait s'expliquer en dernier ressort que par une noble origine. Alptigin, écrit Nizam al-Mulk, gouverna pendant longtemps le Khorasan. Il possédait 2700 goulams et esclaves d'origine turque, goulam étant, comme je l'ai déjà signalé la dernière fois, un des synonymes de mamelouk et désigne des esclaves garçons masculins et plutôt de jeunes esclaves masculins. Donc, il en possédait 2700, vous ai-je dit. Il en acheta une fois 30, parmi lesquels se trouvait Sebük Tegin, le père du sultan Mahmoud. Donc, allusion à cette acquisition forcée pour le vendeur auprès de Hadji Nasr. Trois jours après, Sebük Tegin se tenait debout devant Alp Tegin au milieu des autres esclaves, lorsque se présenta un chambellan qui annonça à l'émir la mort d'un chef de chambrée. Il lui demanda à quel esclave il fallait donner cette chambrée avec l'équipement, l'escouade et l'héritage du défunt, le chef de chambrée qui venait de mourir. Les regards d'Alp Tegin tombèrent sur Sebük Tegin. « C'est à celui-ci, dit-il, que je fais don de tout cela. »« Seigneur, fit observer le chambellan, il n'y a pas 3 jours que ce jeune esclave a été acheté. Il n'a donc pas accompli une année de service, et il en faut 7 pour obtenir le grade que tu viens de lui conférer. Comment peux-tu agir ainsi ?»« J'ai dit, répliqua Alp Tegin. » En entendant ces mots, le jeune esclave se prosterna en signe de remerciement. « Je ne reprends pas ce que j'ai donné, » ajouta l'émir. On remit donc à Sebük Tegin l'équipement du chef de chambrée et on lui conféra le titre. Alp Tegin se prit alors à réfléchir. « Comment se peut-il que ce jeune captif, tout récemment acheté, obtienne, tout nouvellement arrivé ici, un grade que d'autres mettent 7 ans à acquérir. Il faut qu'il soit d'une noble origine dans le Turkestan, ou bien il sera comblé des faveurs de la fortune. Certainement, prédit Alp Tegin, non sans perspicacité, certainement il s'élèvera haut. Cet exemple montre comment des clans turcs pouvaient faire entrer dans le système les rejetons d'autres clans turcs qu'ils avaient capturés et vendus sur les marchés aux esclaves de l'islam. On en verra d'autres exemples relatifs à d'autres peuples turcs. L'un d'eux, par exemple, les Khazars, je n'ai pas encore parlé, je crois, des Khazars, avaient fait de leur capitale Itil, située sur la basse Volga, un de ces grands marchés d'esclaves. Ces derniers, étaient acheminés par le Caucase et par Derbend, qui surplombe la mer Caspienne, puis à travers les steppes, jusqu'au Khwarezm, ce Khwarezm étant la basse vallée et le delta de l'Amoudaria, où ils pénétraient dans le monde musulman. Il y avait parmi les jeunes esclaves acheminés par ce très long périple des ressortissants de plusieurs peuples turcs, les Khazars eux-mêmes, mais également des Bashkirs ou des Bulgares. Ces Bulgares de la Volga ne devant pas être confondus avec les Bulgares des Balkans. Il s'y mêlait en outre des éléments d'autres peuples de la steppe qui n'étaient pas forcément turcs à proprement parler, mais qui pouvaient être des Slaves ou des Ougriens. Le système ou le paradigme mamelouk reposait ainsi, à l'origine, sur trois piliers. L'esclavage, l'éducation systématique des jeunes esclaves sous le contrôle de l'État, et également, c'était le troisième pilier au départ chez les Abbassides et leurs successeurs immédiats, une race, ou ce qu'on considérait comme tel, une race faite pour la guerre et meilleure à cet effet à considérer les choses au IXe siècle que celle qui avait servi jusque-là l'islam, les Arabes, qui avaient été les premiers moteurs de l'expansion territoriale, mais que le succès et les richesses avaient amolies et qui étaient de toute façon en nombre limité, puis les premiers étrangers à pénétrer dans les armées de l'islam, c'est-à-dire les Iraniens et particulièrement les Khorassaniens, les Iraniens de l'Est. Donc, cet élément turc paraît particulièrement indiqué pour constituer une armée de qualité. Un célèbre écrivain arabe de Basra, Al-Jaiz, a, mais il y a plusieurs ouvrages du même genre, consacré un traité entier aux vertus militaires exceptionnelles des Turcs, Risala fi Manakib al-Atrak, wa Ammat Jund al-Khilafa. Il illustre notamment ces vertus militaires des Turcs en décrivant les comportements contrastés de deux files de cavaliers ayant reçu l'ordre, dans une circonstance particulière, d'attendre l'arrivée du calife al-Mamoun. Sur la droite, écrit-il, se trouvaient 100 cavaliers turcs. Sur la gauche, 100 cavaliers d'autres origines. Ils se tenaient en formation en attendant l'arrivée de Mamoun. Midi arriva et la chaleur était intense. Quand Mamoun finalement survint, tous les Turcs, à l'exception de 3 ou 4, était encore en selle, tandis que du groupe composite des autres, tous, à l'exception de 3 ou 4, étaient allongés au sol. C'est QFD. Un autre auteur contemporain, Ibn Abi Tahir Taifour, dans son Kitab Bagdad, a des formules tout aussi catégorique sur les Turcs, des formules qu'il met dans la bouche du futur calife Mutassim. Il n'y a pas de peuple plus brave au monde, plus nombreux, plus tenace contre l'ennemi que les Turcs. S'ils peuvent attaquer leurs ennemis, aucun de leurs ennemis ne peut les attaquer. Qui dit exaltation des vertus d'une race, dit souvent, on ne le sait que trop, volonté d'eugénisme. Nous avons en effet une attestation de cette volonté. Mais il est vrai qu'elle figure dans l'évocation que donne Iacubi dans son Kitab al-Buldan de l'aménagement de Samara par le calife Mutassin. Donc cette évocation concerne bien des esclaves acquis par ce calife, mais non, si nous suivons la chronologie d'Étienne de la Vessière que je mentionnais tout à l'heure, il ne s'agit pas encore de mamelouks proprement dit. Ces derniers n'apparaîtront que quelques décennies plus tard. Et pour les mamelouks proprement dit, c'est-à-dire postérieurs à la fin du IXe siècle, je ne connais pas d'attestation similaire de pratique d'eugénisme. Mais je mentionne tout de même, parce qu'elle est très frappante, la description que donne Iacubi à ce sujet. Il écrit à propos de l'aménagement de Samara. « Les concessions des Turcs furent isolées de celles de tous les autres particuliers, de façon à les mettre bien à l'écart et à ne pas les mélanger à des groupes déjà arabisés. Ils ne reçurent comme voisins que des originaires du Fergana, c'est-à-dire le Fergana, la vallée du cours moyen du Sirdaria. Puis il, le calife, acheta des jeunes filles, de jeunes esclaves femelles, également turques, qu'il leur donna comme épouses. Et on leur interdit de chercher des alliances matrimoniales dans une famille déjà arabisée, ce qui serait un facteur de corruption. Lorsque les enfants auraient grandi, ils devraient se marier entre eux. Les noms de ces jeunes filles esclaves furent inscrits à l'administration des finances qui leur versa des pensions fixes. Aucun Turc n'eut le droit de répudier sa femme ni de s'en séparer. Cette dernière disposition tendait sans doute à empêcher des écarts et à faciliter le contrôle. Elle est néanmoins surprenante car elle va à l'encontre, n'est-ce pas, cet interdit de répudiation, à l'encontre du droit musulman qui autorise au contraire la répudiation, y compris, comme nous l'avons vu la semaine dernière, chez des esclaves. Donc, de quel droit les empêcher, toujours dans ce souci de contrôle de la procréation, de les empêcher de répudier éventuellement leurs femmes. Faut-il y voir l'expression d'un droit dérogatoire pour les esclaves du souverain ? J'ai déjà cité la semaine dernière un certain nombre d'exemples, n'est-ce pas, en préfigurant la période ottomane de dérogation par rapport au statut servile propre aux esclaves du souverain. Ou ne serait-ce pas tout simplement le signe, comme d'ailleurs se le demande Étienne de la Vessière, que ces esclaves turcs d'Al-Mutassim n'étaient pas encore musulmans, n'étaient pas encore islamisés, ce qui, en tout cas, ne sera plus le cas par la suite des vrais mamelouks qui seront, eux, obligatoirement islamisés. Quoi qu'il en soit, cette image évoquée par Iacubi, n'est-ce pas, de cette installation des jeunes garçons d'un côté, des jeunes filles de l'autre, destinées à un moment donné à se réunir pour convoler en juste noces, évoque ce que sera, d'une certaine manière, de nombreux siècles plus tard, la partie interdite, la partie intérieure du palais de Topkapı, avec d'un côté le harem où sont édiquées de jeunes filles et d'un autre côté l'école des pages où sont éduqués de jeunes garçons ces jeunes filles et ces jeunes garçons étant amenés, ou du moins une partie d'entre eux, le moment venu, à s'unir, n'est-ce pas, pour le meilleur service du souverain. Avec toutefois cette différence notoire entre le cas de Samara évoqué par Yacoubi et la situation à Topkapı telle que je l'évoque, qu'à Samara, il s'agissait de maintenir, en somme, la pureté de la race turque de cet élément, alors que, au contraire, les esclaves, garçons et filles de Topkapı, étaient d'origine ethnique les plus variées et les plus composites. Pour revenir au système mamelouk d'origine, tel qu'il apparaît au cœur de l'Empire abbasside en Irak à la fin du IXe siècle, si l'on adopte cette chronologie, et tel qu'il va essaimer, comme nous allons le voir, dans les divers royaumes musulmans qui vont se constituer au détriment de l'Empire abbasside, ce système vise à doter les souverains respectifs d'une troupe d'élite, le plus souvent dans la pratique des archers à cheval, c'est de cela qu'il s'agit, mais en même temps d'une garde personnelle qui soit aussi un corps de parade, luxueusement habillé, harnaché et armé, de manière à orner de la plus belle manière, de la plus belle façon, les cérémonies officielles, à représenter une incarnation de la richesse et donc de la puissance du souverain maître de ses esclaves. Il s'agit en outre pour le souverain d'une pépinière de grands officiers et de hauts fonctionnaires qui seront d'une certaine façon des Janus, puisqu'ils sont tout puissants par rapport à leurs nombreux subalternes et administrés, mais dans le même temps, ils demeurent entièrement dépendants et soumis par rapport à un seul, le souverain, dont ils restent l'esclave, jusqu'au moment du moins, et les califes en feront plus d'une fois l'expérience, où ils se rebellent éventuellement contre leur maître et utilisent toute la puissance que ce maître leur a concédée au service de leur propre destinée. Devenus souverains à leur tour, souverains de plus ou moins grande envergure, ces anciens esclaves ne manqueront pas de reproduire à leur profit le système mamelouk. À leur tour, ils auront des armées de mamelouks. Ces quelques indications font bien apparaître que l'esclavage militaire, sous la forme du paradigme mamelouk, n'est pas, et je reviens sur ce point important que j'ai déjà évoqué, la seule source de potentiel militaire, ni pour le califat abbasside, à partir du moment où il l'a mis sur pied, ni pour aucun des États successeurs. Il importe d'empêcher tout malentendu sur ce point. Tous ces États ont simultanément disposé d'autres types de troupes, je le répète, de caractères tout différents par leurs origines ethniques, leur mode d'organisation et de rémunération, de même que par leur rôle spécifique au sein du dispositif militaire global. Disons, sans trop nous étendre sur le sujet, qu'il pouvait s'agir, n'est-ce pas, ces autres éléments militaires, de forces tribales, ou encore de forces qu'on pourrait qualifier, en allant très vite, de forces féodales, en entendant simplement par là que le souverain, faute de ressources monétaires suffisantes pour payer des troupes en argent sonnant et trébuchant, les entretenait sur la base de concessions foncières découpées dans le domaine public. Il ne faut pas exclure non plus que certains de ses émirs aient été suffisamment charismatiques pour attirer à eux quantité de soldats volontaires de contrées variées du reste du monde musulman qui, pour telle expédition particulière ou de manière plus durable, intégraient leur armée à titre de mercenaires dûment enrôlés ou simplement sans solde, mais en tant que partie prenante potentielle du butin qu'on escomptait tirer de ces campagnes. Ce fut le cas notamment au XIe siècle d'un de ces souverains très charismatiques, Mahmoud de Gaza, pour les expéditions qu'il lance contre l'Inde du Nord. Par rapport à ces troupes de nature diverse, la garde composée de mamelouks ou de goulam, comme on dit encore, n'est qu'une des composantes de l'armée. C'en est cependant le noyau dur, dans la mesure où il s'agit d'une armée permanente, ce que les autres composantes ne sont pas nécessairement, mais aussi d'une partie particulièrement professionnelle de cette armée, puisque tous ces mamelouks ont subi un entraînement méthodique. Et c'est aussi la partie la plus sûre pour le souverain parce que la plus dépendante de lui et la plus contrôlable par lui, même si ce contrôle peut avoir ses limites. Un passage du géographe Ibn Hokal fait éloquemment le point à ce sujet, souligne bien la différence entre troupes mamelouks et autres troupes d'un souverain. « Toutes les armées musulmanes, écrit ce géographe, sont composées de soldats appartenant à des groupements composites recrutés d'une façon hétéroclite dans diverses régions et contrées ainsi qu'aux confins de l'Empire. Lorsqu'une débandade a succédé à une défaite ou bien que des incidents ont été des germes de désunion, il est extrêmement délicat d'effectuer un regroupement. On n'y arrive qu'au prix des pires difficultés en usant avec excès de gratifications et de menaces. Par contre, note-t-il, les troupes de ces princes sont composées de Turcs esclaves qui ont été achetés aux frais du trésor et dont, dit-il, illustrant par là à la fois l'unité de ces troupes et l'indifférenciation au sein de ces troupes, achetées aux frais du trésor et dont les ceintures sont semblables. Voilà donc une illustration de ce que, dans cette phase initiale que j'aurai évoquée aujourd'hui, les troupes mamelouks sont par rapport à d'autres éléments militaires entrant dans la force, dans les forces des Abbassides et de leurs successeurs immédiats. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.